Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission du mois de
mais
novembre.
Mais on est un tout petit peu en retard, et excusez-nous.
Oui, on a eu un petit souci technique une fois de plus, mais bon, c'est corrigé. Voilà.
Ça m'a Didier le chef.
Donc, une heure pour parler de la défense et de la promotion des droits humains, comme depuis de nombreuses années sur l'antenne de Principe Actif. Et on va commencer tout de suite. Bon, on va essayer de rattraper les deux minutes de perdu. On va commencer tout de suite. Ah oui, j'ai oublié.
Il est stressé. Ah, oui. Il oublie de nous présenter.
Donc, ce soir, avec moi autour du micro, il y a Dominique.
Bonsoir.
Il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a quelqu'un que vous allez entendre qui n'est encore jamais venu. Moi, j'ai fait sa connaissance tout à l'heure. Elle s'appelle Candice. Elle s'intéresse à Amnesty. Elle est au lycée Aristide Briand. Et elle va nous lire une bonne nouvelle tout à l'heure. Voilà. Bonsoir, Candice.
Bonsoir.
Donc, on va commencer tout de suite donc, par le vif du sujet de l'actualité très récente, qui est la réélection, et c'est une très mauvaise nouvelle pour les droits humains, la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Alors, loin de nous, effectivement, à Amnesty, de contester le score électoral démocratique qui fait que Donald Trump a eu, je crois, 4 millions de voix de plus que son adversaire, Kamala Harris. Mais bon, le fait de réélire quelqu'un comme Trump, même si c'est par la voie démocratique, pose beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations sur la défense des droits humains. Alors je vais vous lire, vous faire une petite citation et vous dire après qui est-ce qui l'a dit. Le premier mandat de Donald Trump a instauré des politiques et des actions relevant du sectarisme, de la xénophobie et de la rhétorique des suprémacistes blancs et conduit à de larges violations des droits humains. Son second mandat doit être différent et Amnesty International continuera à se battre pour que les droits de chacun soient respectés. Alors celui qui a dit ça, c'est Paul O'Brien et c'est le directeur exécutif d'Amnesty International USA qui sont bien sûr les premiers concernés par l'élection de ce président. Je signale au passage qu'il est possible d'agir avec eux. Moi, je l'ai fait cet après-midi. Alors, il faut être angliciste, il faut comprendre l'anglais. Mais sur le site d'Amnesty, il y a des actions en ligne pour déjà intervenir auprès de la future administration de Trump. Le site d'Amnesty aux États-Unis, c'est amnestyusa.org. Amnestyusa.org. Voilà. Et donc, les questions qui se posent, c'est que l'élection de Trump, effectivement, elle résulte quand même d'une non-légitimité des règles et des devoirs, des principes démocratiques, puisqu'on sait que Trump, dans son premier mandat, s'est attaqué à l'état de droit, qu'il a fait des tentatives d'insurrection, et par exemple l'assaut contre le Capitole à l'issue de son premier mandat, et de fraude électorale, puisqu'il a tenté de voler des voix, entre guillemets, quand il a été battu il y a 4 ans, auprès des électeurs de la Pennsylvanie. Donc c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles de la démocratie. Donc c'est quand même très embêtant de réélire un président qui en soi ne joue pas le jeu. C'est ça le fond du problème en fait. C'est comme si dans un match de football, qui bien sûr obéit comme tous les sports à des règles, il y avait une équipe qui avait 11 joueurs, ce qui est le cas dans le football, une autre équipe qu'on avait 15 ou 16, et qu'on déclarait vainqueur l'équipe qui avait marqué le plus de buts, qui serait probablement l'équipe qui avait 4 ou 5 joueurs de plus que l'autre. C'est aussi bête que ça, c'est aussi bête que ça à comprendre. Alors bon, quelles sont les raisons de sa réélection? On peut en établir des choses très simples. Les discours démagogiques, les discours irrespectueux et violents, et Dieu sait qu'il en a fait beaucoup et qu'il en fait beaucoup, contre les immigrés, contre les femmes. Dominique va vous en parler tout à l'heure avec le droit à l'avortement, etc., etc. L'accumulation de fake news, quand on amène comme vérité des choses qu'on sait éminemment fausses et parce que Trump est quand même un menteur pathologique, éminemment fausse, ça pose aussi des questions en termes de respect de la démocratie, par exemple par rapport au changement climatique, parce qu'il dit que c'est un climato-sceptique et que le changement climatique n'existe pas. Et donc là aussi, sa réélection est aussi due au rôle des réseaux sociaux qui ont largement favorisé ces discours violents et ces discours de séparatistes, entre guillemets. Et donc aussi l'utilisation de double discours, c'est pas spécifique à Trump, qu'on retrouve dans d'autres leaders politiques, mais qui sont très développés chez lui, ces discours contre l'élite, entre guillemets, y compris l'élite économique, alors qu'il en est lui-même issu, puisque c'est un milliardaire. Donc effectivement, c'est facile de critiquer l'élite économique quand soi-même, en fait, on l'a à sa disposition, et qui se veut effectivement le droit. Trump prétend être le représentant des opprimés, des droits du peuple, de ceux qu'on n'écoute pas, alors qu'en fait, effectivement, ces gens-là ne lui servent en fait qu'à se faire réélire, ce qui vient d'être le cas, mais qu'il n'en a très probablement pas grand-chose à faire des droits du peuple et des sans-droits, comme il les appelle. Donc tout ça a pour conséquence la remise en cause des règles, comme je le disais au début, de l'état de droit, et in fine, de la sécurité et de la paix dans le monde, s'il va jusqu'au bout des aberrations de ses promesses, effectivement, ça peut compromettre, y compris la paix dans le monde, et ça ne fera qu'aggraver très profondément les catastrophes climatiques. On va y revenir tout à l'heure dans l'émission, donc ne quittez pas l'antenne, avec quelques commentaires sur la COP29 qui vient de s'ouvrir, mais la réélection de Trump est une catastrophe aussi pour le changement climatique, puisqu'il a dit qu'il allait autoriser...
Il avait déjà fait, enlever ses sous, qu'il n'y en ait plus...
Qui va sortir de l'accord de Paris de 2015, et de la COP de 2015, et qu'il permettra tous les développements
Le pétrole pas cher aux USA, c'est tous les gaz de schiste, c'est tout. Voilà. C'est très compliqué.
Donc mes réflexions, c'est que au-delà encore une fois de son élection qui a été légitime, qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est comment se fait-il qu'une démocratie, surtout celle qui se veut la leader de la démocratie dans le monde, entre guillemets, hein, parce que voilà, c'est tout à fait contestable, mais un pays comme les États-Unis permette à quelqu'un qui ne respecte pas les règles de base de la démocratie de se représenter. C'est quand même le fond du problème. Moi, je suis persuadé en tant que citoyen, ça Amnesty ne le dit pas en ces termes-là, mais en tant que citoyen, que quelqu'un qui triche et qui ment comme Donald Trump et qui ne respecte pas les règles de la démocratie ne devrait pas pouvoir se représenter. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'était ma colère du jour.
Oui, on l'a senti, hein.
Et donc, on va enchaîner, on va rester aux États-Unis, et c'est Dominique qui va vous parler de la remise en cause du droit à l'avortement, de ce qui se passe là-bas et qui ne va pas s'arranger, je crois, avec Trump.
C'est sûr.
Alors, Dominique parle bien dans le micro, par contre, parce que je vois qu'elle est un petit peu loin, on ne va pas t'entendre.
Mais je ne suis pas grande.
Bah oui, c'est ça.
Bon, donc, je vais d'abord faire un petit peu d'historique, pas très longtemps. Donc, l'avortement criminalisé au XIXe siècle, l'avortement n'est pas au centre des combats du féminisme aux USA. C'est dans les années 1960 que ce droit s'impose parmi les revendications militantes. Donc, en 1973, Jane Roe engage une procédure judiciaire contre l'État du Texas après s'être heurtée à l'interdiction d'avorter. Cette action aboutit le 22 janvier 1973 à l'arrêt Roe contre Wade, rendu par la Cour suprême. Il protège le droit à l'avortement en vertu de la Constitution et unifie la législation à l'échelle fédérale. Donc il n'appartient plus aux États fédérés d'interdire ou d'autoriser l'accès à l'avortement. Mais le 24 juin 2022, donc tout récemment, la Cour suprême a révoqué l'arrêt de 1973. Le droit à l'avortement est déclaré comme étant non constitutionnel. Il appartient de nouveau aux États fédérés de réglementer l'accès à l'avortement qui, depuis, a été interdit dans 14 États. Et 8 autres en restreignent drastiquement l'accès. Donc, près de 23 millions d'Américaines ne peuvent plus avorter dans l'État dans lequel elles vivent. Le samedi 9 novembre de cette année, les femmes se sont rassemblées à Washington. Il y a eu le Women's March pour les droits des femmes, car leur peur est l'interdiction fédérale de l'avortement d'ici 2028. Le président a soutenu une interdiction de l'IVG après 15 semaines de grossesse, sauf exception, avant de défendre un choix laissé aux États. Là, c'est NBC News qui nous le dit. Il s'est vanté d'avoir permis la fin de l'arrêté de Roe Wade. Projet 2025 propose l'interdiction de l'avortement par voie médicamenteuse et la surveillance de l'envoi et du transport de médicaments abortifs. Trump répète qu'il ne sait rien de cette feuille de route, mais au moins 140 anciens membres de son administration y ont contribué de près ou de loin. En Géorgie, une femme est morte, faute d'accès aux soins, du fait des lois locales restreignant l'avortement. Elle avait besoin d'une intervention après de rares complications liées à une pilule abortive, mais la procédure était désormais considérée comme un crime, à quelques exceptions près. Cette marche pour les femmes a recueilli quelques centaines de personnes samedi dernier. Donc, au cours de l'année 2023, au moins 170 000 d'entre elles ont dû partir avorter dans un autre État. Ce chiffre devrait encore grimper, car la Floride a abaissé de 15 semaines à 6 semaines la durée limite de grossesse pour pouvoir pratiquer une IVG. Selon la chercheuse d'Amnesty International USA, Jasmine Situ, les USA violent leur obligation en droit international de garantir aux personnes enceintes la possibilité d'interrompre leur grossesse. Ces grossesses non désirées, qui se chiffreraient en dizaines de milliers à l'échelle du pays, ont des répercussions concrètes, pour ne pas dire vitales. Selon deux études des universités du Maryland et du Michigan, la mortalité infantile au Texas a augmenté de 13% après la loi de 2021 restreignant le recours à l'avortement. L'explication, c'est l'effondrement du nombre d'avortements médicaux a entraîné une augmentation des naissances d'enfants atteints d'anomalies congénitales et du nombre des IVG clandestines. L'abrogation de Roe contre Wade devrait encore accélérer la tendance. C'est au Texas que pour la première fois depuis 15 ans, le nombre de grossesses d'adolescentes augmente, et surtout chez celles issues de minorités. Cela saute aux yeux au lycée du Lincoln Park, un quartier populaire de Brownsville. C'est ici, à moins d'un kilomètre de la frontière mexicaine, que la proviseure Cynthia Cardenas accueille chaque matin 80 lycéennes accompagnées de leurs bébés. Grâce à des horaires et des locaux spécialement aménagés, les adolescentes peuvent ici poursuivre leur scolarité en élevant leurs enfants. Toutes les politiques de l'État convergent pour restreindre l'accès aux droits reproductifs. En plus de l'interdiction de l'IVG, les mineurs ne peuvent plus accéder à la contraception sans l'accord préalable de leurs parents. Depuis l'abrogation de cet arrêté, nous voyons dans le quartier de plus en plus d'adolescentes enceintes et l'État du Texas n'alloue presque aucune ressource pour faire face au problème. Les deux tiers de ces femmes que nous aidons ont déjà des enfants. 85% d'entre elles sont racisées. Elles ne sont pas de jeunes étourdies, mais des adultes qui renoncent à enfanter pour des raisons le plus souvent financières. Or, les politiciens anti-IVG connaissent ces statistiques. Ils savent quelles populations seront principalement atteintes par leurs restrictions. Ils se contentent d'en prendre acte. C'est pourquoi je considère que l'interdiction de l'avortement a tout d'une mesure raciste et classiste. À cause de leur politique, des milliers de femmes vulnérables vont un peu plus s'appauvrir dans un État où le salaire minimum n'a pas été relevé depuis 15 ans et qui détient le record national du nombre de personnes dépourvues d'une assurance santé. Comme 8 autres États ayant proscrit l'IVG, le Texas n'a pas prévu d'exception en cas de viol, y compris de nature incestueuse. Les chercheurs estiment qu'environ 65 000 Américaines tombées enceintes après un viol n'ont pas pu accéder à une IVG. Seules exceptions prévues par la loi texane, les grossesses mettant en danger la vie de la mère. Or, le texte est là encore si flou qu'il pétrifie les médecins. Donc ces femmes ont prévu une autre manifestation le 18 janvier, à 2 jours du retour au pouvoir de Donald Trump.
Merci Dominique. Ouais. Effectivement,
c'est pas joyeux. Hein.
Non, c'est tiré d'un article, ce que tu viens de dire. Enfin, oui. C'est largement tiré d'un article.
Allez voir sur la chronique de ce mois-ci.
La chronique de ce mois-ci, effectivement, qui a consacré tout un dossier sur la situation suite aux élections aux États-Unis. Et donc, entre autres, sur le droit à l'avortement. Juste, alors, quelques petites réflexions qui tombent sous le sens, mais effectivement, le droit à l'avortement, ben c'est simplement pour Amnesty, on ne le rappellera jamais assez, que c'est un droit évident, puisque c'est le droit des femmes à disposer de leur corps, ce qui est quand même quelque chose qui, parmi tous les supporters de Trump, tous les mâles blancs, entre guillemets, violents supporters de Trump, ne toléreraient pas qu'on s'occupe de leur vie et de leur corps, mais ils l'imposent aux autres, donc chercher l'erreur, encore une fois. Mais donc voilà.
Mais c'est les femmes qui payent le plus cher. Enfin, quand je voyais l'avortement 6 semaines, bon, c'est fou, quoi, parce que 6 semaines, c'est le minimum pour savoir que t'es enceinte, quoi, déjà. Donc, et puis quand t'es obligé de partir dans les autres États, ben, c'est effectivement les femmes des minorités, celles qui n'ont pas l'argent,
qui n'ont pas
la capacité ou le temps pour pouvoir reprendre un rendez-vous et tout ça. Donc c'est vraiment effectivement les acculer à des choses terribles.
Oui, surtout quand on sait la politique de santé aux États-Unis, où en plus, rien n'est remboursé.
C'est très compliqué, très... oui. Et donc, et encore une fois, bon, pour clore sur le chapitre, rappeler quelques évidences, c'est de dire effectivement aussi que tous ceux qui pensent que avorter, c'est tuer un être humain, etc., le droit à la vie, enfin tout ce qu'on nous rabat les oreilles par rapport à tout ça, un être humain n'est un être humain qu'à partir du moment où il est né, où il devient indépendant du corps de sa mère. Ça, sur le plan de la biologie, c'est pas très compliqué à comprendre. Et que par contre, interdire le droit à l'avortement, c'est tuer des gens qui sont des femmes qui sont bien vivantes, effectivement.
Ce sont des femmes.
Ce sont des femmes. et que donc l'avortement, effectivement, fait dans de mauvaises conditions. Dans des conditions non sécurisées et par des gens non compétents, comme on le rencontre dans tous les pays qui interdisent le droit à l'avortement, c'est condamné à mort des milliers et des milliers de femmes.
Là,
tous les ans.
Dominique a l'exemple d'une femme, était enceinte de jumeaux, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Il y en a un qui était
problématique médicale plus
oui,
plus quoi.
Oui, oui, oui. Et donc cette femme. Elle a frôlé la mort, elle a frôlé la mort à la suite d'une rupture prématurée des membranes. Et la loi a empêché les médecins d'intervenir tant que le cœur du fœtus battait toujours. Elle n'a pu avorter qu'après une septicémie et la perte d'une trompe de Fallope.
Voilà. C'est trop génial.
Donc pour soi-disant défendre le droit à la vie, on autorise la mort de milliers d'êtres humains. C'est quand même quelque chose qui était aussi difficile à comprendre. On va pas tarder à passer la première pause musicale, mais je crois que Candice, elle avait quelque chose à nous dire et c'est tout à fait dans l'autre sens une bonne nouvelle.
Au Bangladesh, un irrépressible mouvement de contestation mené par les étudiants a renversé le 5 août la première ministre Sheikh Hasina. La chute de cet autocrate au pouvoir depuis 2009 a permis d'ouvrir des géoles secrètes et de libérer les prisonniers d'opinion. À l'instar de l'avocat Ahmad bin Qasem, qui a croupi 8 ans dans la maison des miroirs, le surnom attribué à cette sinistre prison où les détenus ne croisaient jamais personne.
Bonne nouvelle pour cet homme. T'as eu droit au nom et tout ça prononcé, bravo.
Merci. Merci Candice. Pour toi, c'est une première à la radio. Donc voilà, merci Candice. Première pause musicale, on se retrouve juste après.
Most curiously
retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission. Le morceau qu'on vient d'écouter, alors je l'ai choisi cet après-midi, c'est un morceau qu'on vous avait déjà passé,
mais
il y a
traduction,
très longtemps.
Alors le, je crois.
Oui, alors le texte ne parle pas du tout de l'élection de Trump, ni de ce qu'on a dit dans la première partie, mais le nom du groupe, et ça me paraissait tout à fait de circonstance, ça s'appelle en anglais Big Thief, et Big Thief, ça veut dire grand voleur. Et quand on connaît la personnalité de Trump, c'est quand même quelque chose qui le caractérise. Voilà, grand menteur et grand voleur. Donc voilà, on va.
Tu vas continuer.
Je vais garder le micro, effectivement, et je vais vous dire quelques mots sur la COP29 qui vient de s'ouvrir en Azerbaïdjan. Je crois d'ailleurs que, si je ne me trompe pas, Edith avait quelques mots à dire sur la situation des droits humains en Azerbaïdjan, non ? C'était pas ça ?
Non, on en a déjà parlé avant, voilà, disant qu'il fallait effectivement qu'Amnesty demandait effectivement que. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont emprisonnées pour leur droit d'opinion et des choses comme ça.
Tout à fait.
On l'a demandé. Après, je ne sais pas comment. Bon, logiquement, ils doivent pas arrêter des gens pendant la COP, voilà, et laisser les personnes qui viennent tranquilles repartir chez eux, on espère.
Enfin, comme dit le proverbe, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
Donc, voilà, ils sont quand même regardés par plein de monde, l'Azerbaïdjan. Donc je pense que ça va se faire, mais espérons qu'après, il n'y aura pas des représailles.
Donc Amnesty International, comme beaucoup d'ONG, est présente actuellement effectivement en Azerbaïdjan, à Bakou, pour cette COP29. Donc là, bon, c'est bien que les COP effectivement se répètent, mais que ça ne change pas grand-chose. Il faut être tout à fait lucide, malgré tout.
Il y a tous les pays du Sud qui les attendent aussi avec beaucoup d'anxiété, parce qu'eux sont déjà dans les problématiques des changements climatiques.
Tout à fait. Et donc le sujet principal de cette COP, c'est d'ailleurs le titre du communiqué d'Amnesty qui dit « Les dirigeants doivent s'engager en faveur d'un financement climatique équitable et d'une élimination complète des combustibles fossiles ». C'est effectivement sur la répartition des aides pour faire en sorte que les pays non développés puissent effectivement changer leur façon de, et qui ne sont pas eux-mêmes les principaux créateurs des changements climatiques, puissent effectivement changer leur façon de vivre et aboutir effectivement à cet équilibre au niveau du climat qu'on souhaite tous. Donc Amnesty effectivement rappelle que les dirigeants présents à cette COP29 doivent tenir compte des appels à la justice climatique en plaçant les droits humains au cœur de toutes les décisions et s'engager à accroître considérablement le financement climatique en fonction des besoins, ainsi qu'à procéder à une élimination complète, rapide, équitable et financée des combustibles fossiles dans tous les secteurs. On rappelle que cette décision, cette élimination complète, rapide et équitable des combustibles fossiles, c'était ce qui avait été décidé à la précédente COP, celle d'avant. Donc voilà, pour l'instant, c'est resté quand même lettre morte. Et donc maintenant, on va parler du financement pour faire ce changement. Donc Amnesty rappelle aussi que la crise climatique mondiale représente la plus grande menace pour l'humanité, donc pour les droits humains. Dans son rapport annuel sur les émissions, le programme des Nations Unies sur l'environnement arrive à la conclusion que sans changement climatique, le monde est sur la voie d'une augmentation des températures de 2,6 degrés à 3,1 degrés au cours de ce siècle. C'est un changement qui rendrait le monde quasiment invivable. Si nous ne prenons pas aujourd'hui des mesures audacieuses, décisives et collectives, le monde de demain sera de moins en moins vivable. Qu'il s'agisse de sécheresse, d'incendies de forêt, d'inondations ou de tempêtes violentes, ces catastrophes dévastatrices et anormales font désormais partie intégrante de la vie des gens dans le monde entier. Elles sont appelées à prendre de l'ampleur, à s'étendre et à s'intensifier, mettant fin à bien plus de vies, détruisant des moyens de subsistance et contribuant à des niveaux sans précédent de famine et de migration forcée. Il n'est pas trop tard pour éviter un effondrement total du climat, mais nous ne pouvons pas perdre une minute de plus. Alors, je vais vous passer beaucoup de choses qui sont dites dans ce communiqué. Vous trouvez ce communiqué sur le site du secrétariat international, amnesty.org. Il est en première page, donc il est très facile à voir, effectivement. Il faut choisir la version française, hein, parce qu'il y a plusieurs langues sur ce site, mais c'est marqué aussi au début, c'est pas compliqué. Je vais simplement vous lire pour conclure les points que rappelle Amnesty et les demandes que l'on formule dans le cadre de cette COP. Placer les droits humains au cœur de toutes les décisions relatives à l'action climatique pour veiller à une transition rapide, équitable et juste vers des économies décarbonées et protéger le droit de tous à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'eau, à l'assainissement, au logement, à un travail décent et un environnement propre, sain et durable, sans discrimination, et qui sont essentiels à la réalisation de la justice climatique. Accroître considérablement le financement climatique, en particulier pour l'adaptation et les pertes et préjudices, sous la forme de subventions et non de crédits, en faisant en sorte que ce soit les principaux responsables des émissions qui en contribuent le plus. Et les principaux responsables, ce sont tous les pays développés, dont nous. S'engager à l'abandon progressif des énergies fossiles de manière totale, rapide, équitable et dotée de financement dans tous les secteurs, sans s'appuyer sur des technologies risquées et n'ayant pas été mises à l'épreuve ou sur des compensations qui n'aboutissent pas à de véritables baisses des émissions. Développer de nouvelles contributions déterminées au niveau national, respectueuses des droits humains et qui maintiennent un réchauffement climatique viable, des pays riches et historiquement les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Protéger les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique de tous les participants à la COP29 qui se tient en Azerbaïdjan, où les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique sont fortement restreintes, et adopter une politique solide en matière de conflits d'intérêts afin de limiter l'influence de l'industrie des combustibles fossiles. Voilà, c'est un tout petit résumé de ce communiqué. Allez lire l'intégralité sur la page du site amnesty.org, n'hésitez pas, c'est tout à fait intéressant. Et donc, il y a un chiffre que je ne vous ai pas cité, mais Amnesty dit que pour s'engager sur une pente vraiment pour réduire les énergies fossiles très rapidement, il faudrait environ plus de 1 000 milliards de dollars par an, ce qui peut paraître une grosse somme, mais ce qui, en compensation des fortunes accumulées par les plus riches personnes de la planète, n'est rien. Voilà. Donc, je crois que...
Je vais continuer avec, effectivement, vous parler un peu de la répression par rapport aux défenseurs et défenseuses de l'environnement qui mènent leur combat contre ce que Didier, tu viens de dénoncer. Alors moi, j'ai quelques chiffres aussi, je trouve, importants à dire. 4 millions de personnes depuis l'an 2000 sont mortes en raison du changement climatique. 4 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays en raison de phénomènes météorologiques en 2023. 5 milliards de personnes pourraient être contraintes de vivre dans des régions touchées par des pénuries d'eau d'ici 2050. Donc, en fin de compte, les défenseurs et les défenseuses de l'environnement sont aussi des défenseurs des droits humains, comme tu viens de dire. Et face à l'inaction et à l'impunité des entreprises devant l'urgence de la crise climatique, ces défenseurs et défenseuses de l'environnement s'engagent et se mobilisent. Alors, qui sont-ils ? Ce sont des personnes qui luttent chaque jour avec des modes d'action qui sont variés, éducation, action en justice, organisation de communautés résilientes, manifestations, actions de résistance pacifique ou désobéissance civile. Et parmi les défenseurs, on peut, ceux qui nous suivent régulièrement, vous vous rappelez peut-être, je crois que c'est Didier, tu en avais parlé, les mamies suisses qui avaient gagné leur procès sur le climat devant la Cour européenne des droits de l'homme. En France, les écureuils, les activistes opposés au tracé de l'autoroute A69 du côté de Tarbes, ou encore les représentants des nations autochtones comme ceux du Canada, les Wet'suwet'en, qui se battent pour actuellement sauver leur terre face à un projet de gazoduc au Canada. Et en raison de leur engagement, ces défenseurs se heurtent aux intérêts puissants des États et des acteurs privés. Ils et elles subissent en réponse une répression parfois extrêmement violente qui s'accroît de manière inquiétante dans le monde. Alors, les défenseurs les plus menacés, car on peut dire maintenant que la répression des défenseurs n'est pas réservée à des régimes hostiles au droit international. Elle est bel et bien d'ampleur mondiale. Ça, c'est tout à fait nouveau. La répression, donc pareil, quelques petits chiffres. Trois fois et demi plus de risques d'assassinat des défenseurs de l'environnement par rapport aux autres défenseurs des droits humains. Et il y a eu plus de 2100 défenseurs et défenseuses de l'environnement qui ont été tués dans le monde entre 2013 et 2023. Donc, ceux qui sont les plus menacés, on pourrait parler des peuples autochtones qui jouent un rôle essentiel dans la défense de l'environnement. Ils entretiennent un lien étroit avec leurs terres ancestrales dont dépendent leurs moyens de subsistance et leur identité culturelle. Ils ont une connaissance fine de leur écosystème qui abrite plus de 80% de la biodiversité de notre planète et possèdent donc l'expérience nécessaire pour s'adapter aux impacts du changement climatique. Mais c'est aussi ces peuples autochtones qui sont souvent victimes des appétits des industriels qui veulent s'accaparer leurs terres pour étendre leurs activités. Terres riches en ressources naturelles, pétrole, gaz, minerais, fréquemment accaparées, vendues, louées ou pillées et polluées par les autorités ou les entreprises privées. Ces peuples autochtones sont très souvent victimes d'une impunité générale qui règne envers les auteurs des crimes sur ces populations. Bien qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale, les peuples autochtones sont victimes de plus de 40% des meurtres commis dans le monde en 2023 à l'encontre des défenseurs de l'environnement. Ça, c'est Global Witness qui nous donne cette info-là. Donc moi, je peux parler comme ça de mémoire par rapport aux articles dont il y a le Mexique. Il y a aussi les gens qui sont... Oui, Amérique du Sud. Didier, tu peux nous dire d'autres pays où on a ces gens qui sont tués pour justement défendre leurs terres.
Il y a plusieurs camps d'Amérique du Sud, là tu me poses une colle.
Oui, non, c'est parce que d'un seul, voilà, j'essaye de me rappeler. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut vraiment être très, très inquiétant parce que la force des multinationales est quand même beaucoup plus importante que les mouvements des peuples et il faut absolument les soutenir. Et les mécanismes qu'il y a actuellement pour protéger les défenseurs sont inefficaces, manifestement. Il y a une répression mondialisée. Alors, on peut parler aussi même au niveau de l'Europe. Hein, on en parlait il n'y a pas très longtemps sur les émissions de radio. La répression ou la mise à l'écart des militants d'écologie, même en France, par rapport à des manifestations, dans le droit de manifester. Donc, attaquer les défenseurs de l'environnement, Amnesty pense que c'est mettre en danger notre capacité commune à faire face à la crise climatique avec l'urgence et l'ambition nécessaires. Donc on demande aux États de garantir le droit à l'accès à l'information relative à l'environnement, de faciliter la participation publique des personnes, des communautés et des groupes, de consulter les populations autochtones, de garantir la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, de garantir la fin de l'impunité et qu'il y ait des enquêtes approfondies et que les auteurs soient traduits en justice, garantir un cadre juridique clair prévoyant des sanctions à l'encontre des entreprises impliquées, faciliter l'accès à la justice et une réparation efficace, ne pas utiliser les dispositions juridiques administratives pour harceler, criminaliser ou stigmatiser les activités des défenseurs, ne pas tolérer, autoriser ou ordonner la commission d'agression physique sur les défenseurs et reconnaître les défenseurs de l'environnement sont des défenseurs des droits humains. Voilà, donc pareil, la COP, on espère qu'elle va pouvoir progresser dans ce fonctionnement-là. Et nous, on sera toujours vigilants et n'hésitez pas à signer plein de pétitions par rapport aux défenseurs des droits humains parce que c'est pour nous aussi.
Oui, tout à fait. Et donc, comme on disait tout à l'heure, effectivement, Edith vous rappelait que les compagnies qui utilisent les industries fossiles, etc., sont extrêmement puissantes contre les gens qui réclament le respect de leurs droits, qu'on ne joue pas dans la même cour, que c'est un peu David contre Goliath. Mais il faut bien se rappeler, c'est ce qui était dit aussi dans ce communiqué d'Amnesty par rapport à la COP29, que c'est même plus maintenant de moins en moins une question de « ce serait bien qu'on fasse ça », c'est « où effectivement on change ». Au niveau climatique,
ça, Didier,
ou
ça,
c'est
Didier,
l'avenir de l'humanité qui
voilà,
est en cause.
Ça se négocie à un niveau effectivement de pouvoir et malheureusement ça se négocie pas au niveau des gens qui ont le pouvoir ou qui ont l'argent.
Oui, je suis bien d'accord.
Voilà. Et en arrivant là à la radio, j'entendais vous avez parlé de la Shell aussi qui a été condamné il y a 2 ans ou 3 ans par rapport au détroit en Afrique. Et on était très contents, c'était condamné par la Hollande. Et puis là, ils ont fait appel. Et puis j'entendais ça, donc il faudrait aller relire le jugement complet. Ils ont fait appel et en fin de compte... Alors on considère qu'effectivement, ils ont quand même fait quelques petites bêtises avec leur extraction de pétrole et tout. Mais on ne va pas les condamner plus parce que... Et la lecture du jugement, c'est... Oui, mais si on les condamne, les autres, eux, on ne va pas les condamner, donc ça ne sera plus juste au niveau économique. Et puis, il faut toujours qu'ils puissent continuer à vendre leur pétrole, parce que comme ça, s'ils vendent leur pétrole, si ce n'est pas eux, ça sera d'autres. Et puis, des gens en ont besoin. Enfin, je pense, à relire tranquillement. Oui. Mais une fois de plus, ils s'en sortent pas mal. Oui, voilà.
Mais malheureusement, c'est de moins en moins une question de ce serait bien d'eux qu'une question simplement de survie pour l'humanité. Donc,
voilà. Et juste une dernière.
Les générations qui nous suivent, il y a Candice qui est avec nous ce soir, ouais, qui est beaucoup plus jeune que l'autre.
Il y a du boulot, Candice.
Et que voilà, c'est dramatique d'en arriver là, mais de se dire effectivement qu'on va arriver à un monde qui va devenir de plus en plus invivable. Donc voilà, c'est même plus une question de morale, c'est une question de. C'est bien pire que ça.
Et en attendant, sauver ses défenseurs, car aussi Canada, il y avait des défenseurs du climat qui sont montés sur un pont, voilà, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils trouvaient que ça bougeait pas assez. On en a emprisonné deux. Quand ils ont été emprisonnés, ils étaient dans des conditions pas possibles. Ils n'ont pas reçu de vêtements de rechange, n'ont pas eu accès à un accès limité à l'eau potable, n'ont pas pu quitter leur cellule. Simplement, ils sont montés sur le pont en disant « on n'est pas d'accord, hein, je vous rappelle ». Et puis, alors, il y en a un qui a pu sortir avec une caution, mais l'autre, il est toujours en prison. Il y avait aussi une troisième personne qui était, elle, restée au sol, qui n'était pas montée sur le pont. Et elle a été aussi accusée de méfaits. Donc ça, c'est ce qui se passe au Canada, c'est méfaits. Donc je pense et elle a été libérée sur caution, mais ils n'ont absolument pas le droit de parler aux médias. Il est interdit de s'adresser, de publier des messages sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, le Canada aussi. Hein.
Mais dis-moi, Edith, tu me montrais la pendule tout à l'heure, mais...
J'arrête, voilà. Ah oui, mais parce que je voulais en parler aussi, parce que ça va avec...
Il
ne faut
comprends.
Pas toujours dire les pays. Moi, j'ai parlé d'Amérique du Sud, des pays où les choses sont très, très dures.
Bien sûr.
Mais là, nous aussi.
Ça montre bien que ça se durcit partout, effectivement, voilà. Et que c'est ça qui est extrêmement inquiétant.
Et que maintenant,
c'est pas Trump qui va arranger les choses.
On va dire musique.
Musique, on se retrouve juste après.
Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. Tu as entre tes mains le soleil de demain. C'est l'appel des étoiles dans la ville folle à changer mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Tu as entre tes mains le soleil de demain. Yes.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite et la fin de son émission sur la défense et la promotion des droits humains. On vient d'écouter Trio, un groupe qui n'est pas très jeune non plus, mais bon, j'ai découvert ce morceau tout à l'heure en cherchant des musiques pour illustrer cette notion de COP29. Et effectivement, le morceau s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, c'était de circonstance, ça s'appelle Ta planète. Voilà. Et on va changer de sujet puisque Dominique voulait vous parler de l'Iran.
Oui, je voulais évoquer l'histoire de cette jeune femme, cette jeune étudiante qui a été arrêtée en Iran. C'est donc parce qu'elle a déambulé en culotte et soutien-gorge pour protester contre la manière dont elle avait été traitée par des miliciens affiliés aux gardiens de la Révolution. Elle aurait été harcelée par les miliciens qui lui reprochaient une tenue inappropriée, tout simplement en l'occurrence sa manière de porter le voile. Il l'aurait malmenée et aurait arraché ses vêtements. La jeune femme s'est alors dévêtue. Elle a déambulé en sous-vêtements, bras croisés sur le campus pendant quelques minutes. Et bien sûr, elle a été emmenée de force dans une voiture par 4 membres des forces de sécurité du pays et transférée dans un centre de soins spécialisé. Ça, c'est entre guillemets.
Hein. Oui, parce que ça...
Oui,
ça veut dire un petit peu prison voilà. Psychiatrique.
C'est le terme de soins qui n'est peut-être pas tout à fait adéquat.
Oui, exactement. Ça, c'est selon l'ambassade d'Iran à Paris. Et donc, elle souffre, bien sûr, d'une fragilité psychologique. Amnesty International avait fait état sur X d'informations alarmantes sur le transfert de l'étudiante en hôpital psychiatrique et rappelé que les autorités iraniennes assimilent le rejet du voile obligatoire à un trouble mental nécessitant un traitement. Cette étudiante, mère de 2 enfants et séparée de son mari, une fois rétablie, reprendra ses études à l'université si l'établissement l'accepte. Ça, c'est le communiqué de l'ambassade. Il s'agit d'une affaire privée. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a assuré que Paris suivait attentivement son cas.
Et moi, j'avoue que j'étais scotchée en voyant les photos, parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est un truc de montage. Une fille en sous-vêtements en Iran, c'est pas possible. Et après, effectivement, c'est quand même... Alors, elle souffre peut-être de troubles, mais elle a vraiment une sacrée volonté, quoi. Oui, oser faire ça, c'est...
Moi, j'ai vu effectivement aussi la vidéo.
Elle était impressionnante, cette vidéo photo, où tu as toutes les femmes avec les voiles noires, et elle est là, au milieu.
Non, mais c'est un acte de courage,
effectivement. C'est formidable. Ouais, enfin, je ne vais pas dire que c'est formidable, mais c'est très fort, quoi. Voilà.
En même temps, ça montre à quel stade, entre guillemets, de désespoir les gens sont réduits pour essayer de faire valoir leurs droits, effectivement.
Ouais, quand on
arrive
vraiment,
à ce type de comportement.
Et on n'a pas son nom, hein, Dominique. Non, on n'a pas. C'est dommage, quoi. Oui, parce que franchement,
on n'a pas son nom.
Non, mais je pense que c'est préférable de la protéger peut-être aussi par rapport à ça. Donc voilà.
Oui, mais...
Enfin, c'est une suite du mouvement en Iran, Femmes, Vie, Liberté, dont on vous a déjà parlé, hein, sur le respect des droits des femmes.
On sent qu'il y a beaucoup de colère pour arriver à faire ça, franchement, la photo, c'est dingue, quoi.
C'est sûr. Alors, toujours par rapport à l'Iran, c'est moi qui vais vous donner, par contre, maintenant une bonne nouvelle. Donc, c'est pas souvent qu'on en a en Iran, mais donc... Et donc, quatre défenseurs masculins de l'environnement libérés de prison. Alors, je vais faire un petit travail, comme vous avez fait Candice tout à l'heure, de lecture de noms compliqués. Niloufar Bayani, Ouman Jokar, Tared Gadirian et Sedipe Kachani, incarcérés en Iran depuis la fin janvier 2018, ont été libérés de prison les 8 et 9 avril 2024. Le 7 avril 2024, leur avocat a déclaré publiquement qu'ils avaient été graciés avant l'Aïd el-Fir, qui marque la fin du Ramadan. Ils faisaient partie d'un groupe de 8 défenseurs et défenseuses de l'environnement arrêtés par des agents des services de renseignement et de sécurité fin janvier 2018 et accusés d'espionnage en raison de leurs activités de protection de l'environnement sur la faune iranienne en danger, notamment le guépard asiatique et la panthère de Perse. Donc en Iran, quand on lutte pour la sauvegarde du guépard et de la panthère, on a des activités, effectivement, comment ça a été, qui sont assimilables à de l'espionnage.
Bah oui, parce qu'on va dans des endroits cachés, peut-être, alors on ne sait jamais.
Encore une fois, c'est comme avec Trump au début de l'émission, quand on arrive à ce stade-là, quand un État arrive à ce type d'accusation, les mots n'ont plus aucun sens.
Ils sont libérés, et ça c'est super. On l'a su il n'y a pas très longtemps, parce que ça semble peut-être un peu...
C'est une information qu'on a reçue au mois de septembre.
Voilà, donc c'est après l'été, quoi, voilà, mais on est très contents.
Il
n'y
en a pas beaucoup qui viennent d'Iran, donc quand ça arrive, effectivement, on est très contents de vous en faire part. Voilà. Et je crois qu'Edith, tu voulais nous parler de tout à fait.
Eh bien, moi, je prends ma casquette de footeuse. Bon, franchement, je crois qu'elle ne sort pas souvent, celle-là. Mais on vous a beaucoup parlé de la Coupe du Monde au Qatar, avec beaucoup de demandes et quelques améliorations pour les gens qui ont travaillé pour construire ces stades et qui ont été, pour certains, transformés pratiquement à l'état d'esclaves. Bon, cette Coupe-là, c'est fini. Alors, la prochaine, c'est en... Allez, donnez-moi une date.
Oh, là, tu me poses une colle parce que je ne suis pas du tout...
Non, je sais que j'ai pas des footeux à côté. Non plus. Eh bien, en 2034. Donc, pour cette coupe, la FIFA, sur la base d'une évaluation... l'organisation de la Coupe du monde de football 2034 est en passe d'être confiée à... l'Arabie Saoudite, qui affiche un bilan désastreux en matière de droits humains. Ça, on vous en parle aussi régulièrement. Eh bien, la FIFA doit confirmer le 11 décembre prochain l'attribution de cette coupe à l'Arabie Saoudite. Alors, on rappelle, exécution en hausse, droits des femmes réprimés, travailleurs exploités. Alors, pour opérer son choix, la Fédération de football va se baser sur une évaluation indépendante du cabinet d'avocats britannique AS&H Clifford Chance sur la situation des droits humains en Arabie Saoudite. Or, cette étude est biaisée. Le document ne contient aucune analyse de fond sur les violations des droits humains du Royaume saoudien, pourtant recensées par plusieurs organisations et divers organes des Nations Unies. À la suite d'une décision de la FIFA et de la Fédération d'Arabie Saoudite de football, donc c'est la SAFF, et le cabinet d'avocats a tout simplement exclu de son évaluation le bilan de l'Arabie Saoudite concernant plusieurs droits fondamentaux, tels la liberté d'expression, la discrimination visant les personnes LGBT+, l'interdiction des syndicats ou les disparitions forcées. Une évaluation qui ne reconnaît pas ces points comme des risques pour les droits humains dans le cadre d'une Coupe du Monde en Arabie Saoudite, perd toute crédibilité. Alors Amnesty, avec 10 autres ONG, nous exprimons nos vives préoccupations au sujet de cette évaluation biaisée et alertons sur les risques des graves violations des droits humains si la Coupe du Monde 2034 était organisée en Arabie Saoudite. Alors, quelques petits rappels. Les risques sont même des fois mortels pour les gens qui iraient travailler. Martha Waitira, originaire du Kenya, qui était une ancienne employée de maison en Arabie Saoudite et qui est maintenant enquêtrice au sein de l'ONG Equidem. Elle dénonce le traitement inhumain dont elle a été victime et que continuent de subir les femmes travaillant dans le royaume. En tant qu'ancienne employée de maison en Arabie Saoudite, je sais que les femmes comme moi sont souvent traitées comme des esclaves. Les centaines de milliers de personnes qui devraient arriver en Arabie Saoudite pour construire les stades et nettoyer les hôtels avant la Coupe du Monde risquent d'être gravement exploitées et risquent même de mourir. Comment ces réalités ont-elles pu échapper à l'attention de Daesh et H. Clifford Chance? Alors la responsabilité de la FIFA. Alors, en réaction à cette évaluation biaisée, on a posé la question à la FIFA, notre organisation a écrit à la FIFA pour qu'elle explique sur quelle base elle avait convenu avec la Fédération d'Arabie Saoudite de football de limiter la portée de l'évaluation. Au 25 octobre dernier, la FIFA n'a toujours pas répondu. Sollicité par l'AFP,
ils ont perdu la lettre, peut-être.
Un porte-parole de la FIFA a souligné que ce rapport avait été commandé par un comité d'organisation de la candidature saoudienne, une étape désormais obligatoire, mais ce n'est pas par la FIFA. Mais la réalité est quand même là, quoi. Donc, il faut rappeler simplement qu'il y a eu un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Arabie Saoudite, un rapport d'Amnesty, qui dénonce... aussi bien aussi la peine de mort, donc nouveau record En 2022, 196 personnes ont été exécutées et 172 en 2023. Mais ce qui se passe, c'est que l'Arabie saoudite, là, depuis que l'arrivée au pouvoir du prince héritier Mohamed Ben Salman, hein, celui qui a fait tremper le journaliste dans l'acide, vous vous rappelez quand même, et mais qu'après, notre président Macron a été lui serrer la main. Bon, il y a eu un petit peu de temps entre les deux, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Donc, elle essaye vraiment d'améliorer son image. Bon, voilà. Donc, elle est prête à tout. Le sport, c'est un bon plan. Et est prête pour une campagne de blanchiment d'image. Donc, c'est quand même bien soucieux parce que peut-être que le 12 décembre, on va savoir que c'est l'Arabie Saoudite qui aura la nouvelle Coupe du monde de foot.
Oui, et puis une question qu'on peut se poser aussi par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le climat et la COP29, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est quand même aussi un des principaux pays producteurs de pétrole au monde et que bah, ça ouvre bien des portes hein, d'être un des principaux pays producteurs de pétrole, même si effectivement...
C'est, tu voudrais c'est dire qu'il y a des intérêts en plus que le foot ?
Didier,
t'es sûr ?
Disons que voilà esprit. Quoi.
Ouais, disons, franchement, disons non, que, quand voilà. même.
Ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure. On a encore, oui, puis on va passer nos infos.
Oui, parce qu'après, je vais te remontrer l'horloge.
Oui, c'est ça. Non, mais ça me rappelle, ça m'est revenu à l'esprit, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la situation au fait de faire la COP29 en Azerbaïdjan, pays non respectueux des droits humains. C'est aussi dans un article d'Amnesty que j'ai lu ça. En fait, au printemps dernier, quand la COP a décidé de se tenir en Azerbaïdjan, l'Union européenne a protesté en disant qu'effectivement, vis-à-vis des respects des droits des écologistes et autres là-bas, c'était pas top. Mais qu'en fait, cette protestation de l'Union européenne n'a débouché sur rien, puisqu'en parallèle, l'Union européenne négociait aussi avec l'Azerbaïdjan des gros contrats d'achat de pétrole pour contrebalancer le manque à gagner du pétrole vis-à-vis de la Russie, puisqu'il y a un boycott sur les produits pétroliers russes, soi-disant d'ailleurs. Mais enfin bon, donc effectivement, là aussi, les droits du pétrole passent avant les droits humains.
C'est bien compliqué. Allez, voilà. Un peu de local.
Information locale, donc on se retrouve le temps que je les reprenne, voilà. On se retrouve, nous, à l'antenne, le mardi 26 novembre à 19h, donc pour la prochaine émission sur la promotion et la défense des droits humains sur l'antenne de Principe Actif. Et le même jour, puisqu'on est capable d'être à deux endroits en même temps.
Ouais, ça c'est magie.
Le même jour, on sera aussi au théâtre, puisqu'on est partenaire avec nos amis du Tangramme, d'un spectacle qui s'appelle « Longtemps, je me suis levé tôt ». Et qui parle de droit au travail et de droit à un travail digne. C'est à 20h au théâtre le même jour. Donc il y a encore des places. N'hésitez pas à aller sur le site du Tangramme pour réserver vos places. Donc le mardi 26 novembre. Juste quelques mots sur le spectacle. Donc ça se passe dans une fabrique de sapins artificiels et qui doit être délocalisée. Et il y a une ouvrière de cette usine qu'on retrouve pendue. Il y a donc une enquête qui a lieu et ça pose la question...
Et tu n'en dis pas plus.
Ça pose la question de la précarité du travail, de l'usure au boulot. Et dans cette pièce, les larmes dérangent le rire, à moins que ce ne soit l'inverse. Et donc, en fait, la thématique de ce spectacle, c'est les droits à un travail digne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir à ce spectacle. Ça s'appelle « Longtemps, je me suis levé tôt ». C'est tiré de faits réels, d'ailleurs. Et c'est le mardi... Alors, je ne vais pas me tromper de date
26.
Pour une fois. Sinon, 26. Je vais encore faire lire Claire Lise, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui me dit à chaque fois « Tu te trompes dans les dates ». Donc, le mardi 26 novembre, à 20h, au théâtre. Et en même temps, on sera sur l'antenne de Principe
voilà.
Actif.
Et on va vous parler des 9 personnes pour qui on va demander le maximum de signatures, comme
c'est
on fait d'habitude.
C'est pour la campagne ex 10 jours pour signer, qui s'appelle maintenant « Changer leur vie ». Mais pour ça, vous aurez toutes les informations très prochainement, parce que tout n'est pas encore calé, sur nos réseaux sociaux, on va les rappeler. Donc notre page Facebook, Amnesty International Évreux, avec un accent aigu sur le « e ». Et notre page Instagram, amnesty.évreux. Voilà, donc n'hésitez pas à les consulter pour avoir toutes les informations sur cette campagne qui va démarrer à la fin du mois.
Bonsoir.
On rend l'antenne et on souhaite une bonne soirée à tout le monde. On remercie Candice pour sa présence à l'émission et son intervention.
Tu sais où c'est.
Voilà. Et on vous dit à tous à très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
«
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.